about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Anna Sigalevitch et Philippe Chevillier se font face à notre affiche Les Nuits de Fourvière et le Printemps des Comédiens avec The Encounter. D'après Mason Beaming de Petru Popescu, un spectacle conçu, interprété et mis en scène par Simon McBurney, Monsieur Armand dit Garincha de Serge Valetti avec Elric Elmosnino dans une mise en scène de Patrick Pinault, et Mira, spectacle conçu et mis en scène par Guillaume Vincent. En fin d'émission, je passerai un coup de fil à Romaric Daurier, directeur du Phoenix, scène nationale de Valenciennes. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Pardon, gagner des invitations. Vous allez continuer pour moi, Antoine, gagner des invitations pour...
Eh bien, pour le spectacle Vertical Influence par la compagnie de Patin Libre, c'est pour le vendredi 24 juin à 19h45 dans la patinoire Vegapolis Odysseum à Montpellier, où il fait parfois froid, dans le cadre du festival Montpellier Danse.
Et puis, on retrouvera la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, qui est toute cette semaine l'invitée de la dispute. Une dispute qui prend l'air frais en effet dans mon cas, l'air dans les festivals qui ouvrent la belle saison estivale, enfin on imagine que l'été va finir par arriver un jour. Donc avec le Printemps des Comédiens et les Nuits de Fourvière, nous sommes rendus en effet tous trois, Anna Sigalevitch, Philippe Chevillier et moi-même, à Montpellier d'abord pour y découvrir La Rencontre, un spectacle conçu, interprété et mis en scène par Simon McBurney, qui avait fait lui sensation en Avignon en 2012 avec son Maître et Marguerite dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Cette fois, il est seul en scène mais très entouré par un dispositif sonore, visuel également très élaboré, pour un voyage au cœur de l'Amazonie tel que l'écrivain Petru Popescu l'a raconté dans un livre consacré au photographe Lauren McIntyre, qui travaillait pour le National Geographic et qui se perdit dans la vallée Javari en 1969 et vécut donc quelques jours parmi la tribu des Mayurona. C'est l'histoire que va nous raconter Simon McBurney.
So if you put on your headphones, and if I were to breathe in your ear, your brain would tell you that I was really breathing in your ear, and it might even start to get hot.
He didn't speak to me. I think he spoke to me without words. Just as Barnacle undid my spell by running counterclockwise, I could be the crack between here and there. The crack through which another time, our time, might flood.
You go to the caves at Lascaux and you see a sequence of 13 dots, and above the 13th dot is this huge, great big animal. To understand time, you have to understand something a bit ritualistic, something which is repeated, whether that be your...
Voilà, on a un peu l'idée de la dimension sonore, mais il faut quand même davantage expliquer à nos auditrices et auditeurs, comme vous opinez, Anna Sigalevitch, comme je suis pas jamais sûr de finir une phrase ce soir, je vais peut-être vous laisser décrire le tout début peut-être
le
du spectacle.
Le système qui est utilisé, le tout début, oui, oui. Alors au début, Simon McBurney, donc, qui est seul en scène dans ce spectacle, entre sur le plateau et puis il s'adresse aux spectateurs de façon assez informelle.
En français.
En très bon français. Il a son téléphone à la main, il nous dit que lui, il a le droit de l'avoir, mais que nous, c'est totalement interdit parce que ça créerait des interférences. Parce qu'il faut savoir que le système utilisé, on a des casques, certes, mais pas n'importe quel casque. C'est une technologie très sophistiquée qui s'appelle la technique du son binaural. Voilà, hein. Alors ne me demandez pas de vous expliquer comment ça fonctionne, parce que j'ai essayé de comprendre, mais mon petit cerveau non scientifique n'a pas à vite renoncer.
Ça reproduit ce qu'entendent les oreilles véritablement, mais par le truchement de la technique.
Ça provoque, en tout cas, en ce qui me concerne, des choses qui sont tout à fait inattendues, enfin en tout cas que je n'avais jamais entendues.
De spécialisation.
De spatialisation, c'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, une bouteille d'eau, un bâton de bois, quelques micros disposés, il y a un micro avec un pied qui est au centre de la scène, avec un masque au-dessus qui va jouer beaucoup pendant tout le spectacle, et ça commence, c'est vrai que c'est très étonnant parce que quand il y a un petit bruit de moustique, ça vous donne vraiment physiquement des frissons.
Encore plus drôle, c'est qu'il dit qu'il va souffler de l'air chaud dans notre oreille, donc il le fait sur cette tête qui est un micro. Hein,
et là, ça chatouille.
Et là, on a chaud à l'oreille.
Dans le cou, on a chaud à l'oreille. Enfin, c'est
par la force du son et du cerveau qui croit ce qu'il entend.
Voilà, c'est assez étonnant. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est cette sophistication utilisée par Simon McBurney et ce côté qui reste toujours très artisanal.
Parce qu'il y a des boucles, il y a des choses qui sont préenregistrées, il y a d'autres sons qui vont intervenir.
Il mélange son live et son enregistré, en effet, avec cette pédale de looping qui permet de faire plusieurs pistes et de faire des boucles. Et ce qui est beau, c'est que tout ça est fait quand même par la main de l'homme, c'est-à-dire que c'est surtout inventif, ingénieux et ludique. Et d'ailleurs, moi je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'en fait, Simon McBurney, c'est un peu un Peter Brook technologique. C'est-à-dire qu'il y a finalement quelque chose de très proche, de très simple, et qui fonctionne vraiment avec les idées. Et d'ailleurs, ce bâton, bâton en bois, c'est le bâton de la tempête chez Peter Brook. J'y ai pensé aussi parce que Simon McBurney avait monté une très belle flûte enchantée, pas la saison dernière, mais celle d'avant, au Festival d'Aix en Provence, où c'était
magnifique.
Aussi magique, mais complètement à dimension humaine. On voyait tout se fabriquer en direct sur le plateau. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Et c'est vrai que Brooke avait monté aussi une très belle flûte enchantée. Bon, voilà. En tout cas, donc sur la forme, c'est vraiment un voyage, un périple, une odyssée qui est tout à fait étonnante. D'ailleurs, il y a quelques longueurs pour moi dans cette odyssée, mais c'est vrai qu'on sort du spectacle qui a duré 2 heures en se disant mais oula, on est allé très très loin et on revient de tout on revient d'un vrai ailleurs.
Alors où est cet ailleurs? Où est-ce qu'on a été? On va passer la parole à Philippe Cheville avant de revenir vers vous, bien sûr, Anna. De quoi ça nous parle? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. D'un séjour un peu particulier d'un photographe, évidemment, qui recherche à l'époque les tribus primitives, comme ça se faisait beaucoup dans les années 60-70, aller chercher des tribus qui n'avaient jamais rencontré la civilisation. Je mets beaucoup de guillemets autour de ces mots-là, parce que c'est comme ça qu'on en parlait, en tout cas à l'époque. Et puis, le voyage ne va pas se passer comme prévu, Philippe.
Bien oui, il va se perdre. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a parlé de technologie, on a parlé d'un roman dont est inspiré le spectacle, on a parlé de ce décor qui n'est pas, puisqu'il n'y a pas de décor, où il y a quelques éléments sur scène, et on se dit, est-ce qu'il y a du théâtre avec tout ça? Et oui, il va y avoir du théâtre, c'est-à-dire qu'on va être complètement plongé dans un monde théâtral par des biais détournés, et de ce mélange de technologie et d'artisanat, comme disait Anna, nous emmène, donc on est complètement plongé avec cet explorateur qui va se perdre presque immédiatement et qui va marcher sur les traces d'une tribu où il va pas très bien comprendre ce que fait cette tribu jusqu'au jour où petit à petit, par les échanges qu'il peut avoir et surtout par la pensée, parce que du coup il n'y a même pas besoin de paroles à un certain moment pour se comprendre, va comprendre que cette tribu en fait est en train d'essayer d'échapper à cette civilisation qui dévore, à ces prédateurs qui sont les forestiers, qui déforestent, qui recherche du pétrole, et par cette et leur quête va les mener à essayer d'échapper en recommençant une nouvelle vie, à faisant table rase du passé. Et là, on va entrer dans une logique presque de transe, c'est-à-dire que le spectacle, qui au départ est une aventure, nous emmène dans une espèce de fable philosophique, une fable sur la nature, et qui, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'elle n'est pas appuyée, c'est-à-dire que Simon McBurney ne nous donne pas de leçons, c'est pas une fable écologique très appuyée, même si on trouve évidemment cette mystique de la nature, cette mystique du recommencement. On est vraiment plongé dans cette fable qui m'a beaucoup bouleversé.
Alors c'est vrai que ce dispositif sonore très subtil, très riche, très impressionnant, mais il y a quand même, on l'a pas encore assez dit, Simon McBurney, qui est quand même une bête de scène. Moi, c'est la première fois que je le voyais sur un plateau. On l'a vu au cinéma. Il était récemment encore dans Magic in the Moonlight de Woody Allen. Voilà, c'est une personnalité connue. Moi, je l'avais jamais vu sur un plateau et je trouve qu'il a une présence folle. C'est une salle assez grande, la salle Jean-Claude Carrière au Domaine d'Eau à Montpellier. Donc, ce sera cette semaine aux Nuits de Fourvière. Hein, je donnerai les dates dans un instant. Salle de 600 places. Et ce qui est très frappant dans ce cas-là, un grand plateau, il est seul. Et je trouvais qu'il est... Il était en connivence avec chacun des spectateurs. Enfin, c'est la sensation qu'on a. Alors, c'est peut-être renforcé par le casque, mais quand même, il y a quelque chose dans sa relation au spectateur qui est très, très riche, très chaleureuse, très, très intime. Et donc, ça, déjà, le voir sur scène, c'est à l'évidence un beau moment de partage. Alors, c'est vrai que la ligne de rupture, pour moi, elle se situe sur l'intérêt qu'on peut avoir ou pas à ce qu'a vécu Lorraine McIntyre et la recension de ces folles journées, parce que sur le fond, ce que dit le spectacle est tout à fait inattaquable. C'est vrai que voilà, c'est la défense de ces populations indigènes qu'il faut préserver, enfin assez peu attaquable, on va dire ça comme ça, puisque je vois Anna Segalevitch un peu dodeliner de la tête. Mais en tout cas, le comédien, le metteur en scène, l'adaptateur Simon McBurney, il est quand même suffisamment malin, fort, pour ménager des ruptures de rythme, des ruptures de ton, hein, notamment, c'est très joli, c'est l'intervention de sa petite fille, Noma, à qui il dit, dans ce début de spectacle que vous racontiez, qu'il va envoyer un texto parce qu'elle ne veut pas le croire que papa travaille, qu'est-ce qu'il fait sur scène à cette heure-là, alors qu'il ferait mieux être à la maison. Et puis tout au long du spectacle, on va entendre la petite fille qui rentre dans l'espace de travail de papa, qui travaille les sons de son futur spectacle. Donc on mêle le passé, le présent, différentes couches de passé, et ça c'est extrêmement joli. Et puis, morceau de bravoure, parce qu'il y a un vrai moment de transe où là McBurney il est quand même, on a l'impression d'y être, ce qui est tout à fait phénoménal parce que le plateau est quand même extrêmement nu. Mais c'est vrai que voilà, sur la question de la contamination des tribus primitives par la modernité, ce sont des choses dont on a pu beaucoup parler, qu'on peut regarder sous différents axes. Deux heures. Voilà, moi j'ai ressenti comme vous certaines longueurs. Anna, vous vouliez préciser votre pensée.
Oui, parce que en fait, je trouve que le spectacle est plein de paradoxes sur le fond. Je suis très contente de l'avoir vu. Je suis comme vous. Enfin, je veux dire, je trouve que Simon McBurney est formidable. C'est une façon de faire du théâtre qui me plaît. Enfin, je suis très contente de l'avoir vu, vraiment. Donc, j'ai pas du tout envie de décourager les auditeurs d'y aller. Il faut absolument y aller. Mais j'ai quand même des réserves sur ce que ça dit, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire dans tout ça, Simon McBurney? Est-ce que c'est quoi? C'est la vraie vie? C'est la leur? Qu'on vit nous une fiction communément acceptée? Moi, la notion de fiction, alors en plus, elle intervient à plein d'endroits différents, cette notion de fiction, dans le spectacle. Et en même temps, je trouve ça intéressant. Mais parce que, donc, il monte son portable et il dit, mais voilà, ça, c'est de la fiction. Après, il nous dit, mais nous, on croit aux droits de l'homme, mais les droits de l'homme, en fait, ça n'est qu'une histoire. Nous, on croit dans la fiction du 20h, mais en fait, ça aussi, c'est de la fiction. Et moi, je pense pas que ce soit de la fiction, en fait, du tout, tout ça. Je ne crois pas. Je suis plus... peut-être que la fiction a inspiré le réel, et peut-être que la fiction inspire le réel. Et en ce sens... Moi, je suis plutôt du côté d'Oscar Wilde qui dit que la réalité s'inspire de la fiction. Mais c'est notre réalité et moi, elle m'intéresse, notre réalité. Je veux dire, je pense pas qu'on soit dans la fiction avec la technologie qui avance, etc. C'est-à-dire que je comprends le voyage initiatique, le parcours, la prise d'ayahuasca pour se retrouver soi-même, etc. Mais d'opposer les hommes, enfin ce genre de tribu aux hommes modernes, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas des problématiques qui m'intéressent plus que ça aujourd'hui.
Et vous, Philippe Chevillé?
Alors moi, je rebondis sur cette histoire de fiction parce qu'elle est intéressante. De bout en bout, vous le disiez, dès le départ, le monde est ce qu'il se raconte et ce qu'il se raconte. Et bon, pendant tout le spectacle, c'est retour à la civilisation, d'une certaine façon, à l'Occident, avec la petite fille, oui. Où le bureau de Simon McBurney nous fait échapper à cette... nous renvoie à ce monde. Et pourtant, on a envie de retourner en Amazonie, on a envie d'aller jusqu'au bout de la quête. Et donc, il y a toujours... C'est pour ça que j'aime bien ce recul qui est qu'on n'est pas complètement tellement berné, puisqu'il nous, il nous parle de cette histoire que, en fait, la belle histoire qu'on raconte, elle est belle parce qu'à la fin, c'est quand même un recommencement. C'est-à-dire la possibilité de l'homme, sa capacité à dépasser ses limites, plus que la lutte contre les... Parce qu'on n'en parle pas tant que ça, des pétroliers déforestés. C'est plutôt cette communication par l'esprit, ce retour à des choses très simples. Et ça, moi, je trouve que ça passe très bien. Et vous parliez du moment, Arnaud, du moment qui est le morceau de bravoure, où il y a la transe et où tout d'un coup il met en parallèle ces tribus qui jettent dans le feu tous leurs objets les plus utiles. Il imagine les Américains dans les rues jetant leur ordinateur, leur portable, etc. dans le feu avec une espèce de musique genre blues, je sais plus très bien, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Et je trouve ça très fort. Et en même temps, après il revient petit à petit. On n'est pas justement dans une, encore une fois, dans une espèce de démonstration écologique. Ça va au-delà de ça. Et c'est à la fois sincère et en même temps c'est toujours avec ce recul c'est le théâtre qu'on est en train de voir du théâtre, on est en train de voir le monde qui est raconté par le théâtre lui-même tordu par les sons. C'est je trouve ça très fort.
Et
ça.
Il s'en sert de tout ça, donc évidemment ça joue. Mais même dès le départ, en fait, voilà. Et puis même, je dirais même que dès le départ ça joue, parce que le roman ce livre qu'il a reçu de Petru Popescu, cet auteur, il dit que c'est un auteur qui a fui le régime de Ceausescu pour se réinventer comme scénariste à Los Angeles. Et à mon avis, pour moi, ça dit quelque chose. On pense à von Stroheim, on pense à von Sternberg à ce moment-là, qui sont des fils de tailleurs ou de fabricants de chapeaux de paille et de dentelles, qui ont fui l'Europe centrale pour aller s'installer aux États-Unis en ajoutant une particule à leur nom. Et donc, je pense que tout ça aussi se relie. C'est comment mettre en scène aussi sa vie, comment fixer sa réalité, mais qui devient quand même réalité. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, ce qui me gêne, c'est si on dit que c'est de la fiction, ce qu'on vit. Avec ça, je suis pas d'accord. Mais tout le reste, oui. Et je pense que, évidemment, Simon McBurney joue aussi avec ça.
Oui, parce que c'est un homme de théâtre qui adapte le livre d'un scénariste qui raconte quelques journées de la vie de quelqu'un.
Il a fait un journal au départ.
Qu'on peut croire ou pas.
Donc il y a beaucoup de malice,
par
bien
ailleurs.
Sûr, on peut croire ou pas, absolument.
On peut dire que tout ça est une fiction, y compris la fin, qui semble pas être une fiction, parce qu'il veut finir sur de réel aussi, Simon McBurney, quand il dit, effectivement, j'ai été voir les descendants de cette tribu, et ce qu'ils veulent que vous dire, c'est qu'ils existent. On est dans quelle parole ? Ouais, c'est ça qui est aussi intéressant. Philippe Chevillier.
Là, je voulais revenir juste très vite à l'aspect technique, enfin à l'aspect scénographique du spectacle. C'est que on pourrait imaginer qu'il y a des longs plans du fleuve Amazon, des vidéos dans tous les coins. Et bah pas du tout. C'est des effets de lumière, certes, mais c'est vraiment des lumières abstraites.
Ouais.
Donc, tout le spectacle vraiment est conçu comme sensoriel et d'une certaine abstraction et en même temps très concret, mais c'est pas de la projection vidéo.
Pas du tout, non. Il y a
du National Geographic.
C'est comme une prise d'ayahuasca, hein, quelque part, le spectacle. On rentre à l'intérieur de soi. Non, mais c'est
vous
vrai.
Vous connaissez?
Non, mais quelqu'un de proche de moi connaît.
D'accord, donc vous êtes fait décrire les effets. Mais effectivement, il y a un simple mur qui est comme un dispositif acoustique sur lequel des jeux de lumière vont faire tantôt effectivement couler l'Amazonie, tantôt tomber la pluie, tantôt effectivement avoir des visions déformées. Tout ça est très sensuel, sensoriel, et à vivre intensément la rencontre, donc, qui a été présentée au Printemps des Comédiens la semaine dernière, et qui va être aux Nuits de Fourvière, à Lyon, au Radiant Bellevue, du 23 au 25 juin, donc après le Printemps des Comédiens, à Montpellier.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous parlerons tout à l'heure de Monsieur Armand, dit Garrincha, de Serge Valetti, présenté aux Nuits de Fourvière à Lyon. Nous retrouverons avant cela l'invité de la dispute, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana. Nous évoquerons aussi Mira, fragment du prochain grand spectacle de Guillaume Vincent, qui était lui présenté au Printemps des Comédiens. Avant cela, quelques fragments des journaux avec Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. « Bonsoir à nouveau, cher Antoine.
Bonsoir Arnaud, remettez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Paradoxalement, si la négociation UNEDIC échoue et que l'État prend la main, la question des intermittents est réglée. Jean-Patrick Gilles, député socialiste spécialiste de l'intermittence, ne croyait pas si bien dire, note Solveig Godeluc dans Les Échos. Quelques minutes après le constat d'échec de la séance de jeudi, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a réaffirmé sa volonté de mettre en œuvre le plan d'économie voté à l'unanimité par les partenaires sociaux le 28 avril sur les annexes 8 et 10 de la convention d'assurance chômage concernant les techniciens du spectacle et les artistes. Sans attendre, le gouvernement transposera dans les règles de l'assurance chômage l'accord unanime signé le 28 avril 2016 par les partenaires sociaux du spectacle, assure donc le communiqué ministériel. Le projet de décret nécessaire à cet effet sera transmis au Conseil d'État d'ici à la fin du mois de juin et publié au Journal officiel d'ici la mi-juillet, date à partir de laquelle il produira ses effets comme nous nous y étions engagés. La CGT, majoritaire parmi les intermittents, ne devrait donc pas mettre à exécution sa menace de bloquer les festivals en juillet. Le risque était en effet que l'accord du 28 avril ne soit pas appliqué, mais soit remis sur le métier suite à la prorogation de la convention actuelle. L'UNEDIC estimait que les réductions de coûts prévues n'étaient pas au rendez-vous et insistait pour faire plus d'efforts. Or, si cet accord ne permet pas tout à fait d'atteindre les 105 millions d'euros d'économies par an souhaités, il promet tout de même 84 à 93 millions de dépenses en moins. Personne ne perd la face, on revient à la date anniversaire pour l'ouverture des droits, mais on plafonne le cumul des cachets de l'indemnisation, ce qui aura un effet modérateur, souligne Jean-Patrick Gilles, qui applaudit un bon compromis étonnant dans la période. Sauf que, comme l'ont relevé aussi bien le député maire de Versailles, François de Mazières, que le collectif d'artistes et de directeurs d'institutions, dont on avait cité ici la tribune publiée dans Libération, si l'État finance, même en partie seulement, l'assurance chômage des intermittents du spectacle, c'est le budget de la culture qui fondrait comme neige au soleil. Audrey Azoulay a beau multiplier les tweets et les communiqués de victoire, elle a beau se déplacer et prendre parfois la parole, elle se retrouve, estime Armel Héliot dans le Figaro, devant ce mur à quelques jours du début des plus grandes manifestations spectaculaire de l'été, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et le Festival d'Avignon. Si les nuits de Fourvière à Lyon, si le printemps des comédiens à Montpellier se déroulent depuis 15 jours sereinement, on sent les tensions monter. Parmi les dernières décisions de la ministre, les nominations coordonnées à Orléans de Maud Le Pladec au Centre chorégraphique national et de Séverine Chavrier au Centre dramatique, les femmes d'abord, les femmes à tout prix, tel est le credo. N'en discutons surtout pas, cela ferait mauvais genre, se défausse la critique théâtre du Figaro. Et puis, comme cela ne suffit pas, voici 7 millions d'euros supplémentaires destinés au fonds d'urgence pour le spectacle vivant mis en place après les attentats du 13 novembre 2015. Une manne visant à soutenir le secteur, en particulier à l'ouverture des festivals de l'été. Il y a dans cette défausse précipitée quelque chose de pathétique, estime encore Armel Héliot, qui ne peut cacher le désamour du monde de la culture pour ses tutelles, fussent-elles de gauche. Armel Héliot, qui en retrouvant au théâtre de la Bastille Pierre Meunier et Raphaël Cottin s'escrimant dans Buffet à vif à réduire en miettes un bahut de bois à coups de hache et de boules de démolition avant d'en disposer religieusement les vestiges sur le plateau en compagnie de leur complice Marguerite Borda et du public appelé à la rescousse, se disait qu'on avait là une belle métaphore de l'action politique en matière de culture. On disloque et on recolle. Alors qu'à Avignon, on ne pourra même plus du tout collé. Avignon off, peut-il vivre sans affiche ? S'interroge Igor Hansenlov dans l'Express. Il faut bien l'espérer car il y a du changement vert dans l'air. Pour sa première année à la tête d'Avignon Festival et Compagnie, le off, l'association qui coordonne le plus grand festival de théâtre du monde, Raymond Yana a décidé de mettre fin à ce qu'il qualifie de véritable désastre écologique. Rien que ça, en cause la quantité effarante d'affiches imprimées à destination des murs de la Cité des Papes. mais avant toute chose, un peu de mathématiques en vue des 1416 spectacles qui s'y produisent. Si, selon les chiffres avancés par le nouveau président, 80% des compagnies collent chacune 1250 affiches, quel est le nombre total d'affiches placardées lors de la manifestation? Anna Sigalevitch, une idée? Non. 1 416 000. Et oui, en 2015, 110 agents de propreté ont ramassé plus de 14 tonnes de pancartes sur la mairie avignonnaise. Un véritable désastre écologique. Donc, je suis un homme de compromis, tempère Raymond Yana. L'objectif n'est pas d'interdire l'affichage, mais de le limiter. Seuls certains formats, systèmes d'accrochage et matières biodégradables seront autorisés. Voilà qui est dit. Mais quid du folklore avignonnais, s'inquiète le journaliste de l'Express. Ne disparaîtra-t-il pas avec cette nouvelle régulation? Il est de notre devoir de le faire évoluer, termine le président. Avec la mairie, nous avons donc proposé à des artistes de street art d'investir les murs de deux places de la ville. Le dispositif a le mérite d'être moderne. Sera-t-il suffisant? Pas de consigne en revanche pour cet autre élément incontournable du folklore avignonnais qu'est la parade, mais ça ne saurait tarder.
Bon, je n'aurai pas de commentaires sur la fin, d'ailleurs on n'a pas beaucoup de temps, mais me réjouir personnellement de cette nomination de Séverine Chavrier. Non, déplaise à Joël Gaillot qui n'a pas beaucoup aimé ces deux derniers spectacles. On en parlera avec elle et puis on verra quelle directrice du CDN d'Orléans elle sera. Ça qui compte. Philippe Chevillier, vous, Séverine Chavrier.
Ouais, moi, j'aime beaucoup Séverine Chavrier, donc je suis content, c'est ça.
Voilà.
Quand on a quelqu'un qu'on aime qui est nommé à un théâtre, bon, on est content. Voilà.
Voilà, et on a envie d'y aller. C'est très bien comme ça. Mais à ce moment de notre émission, nous avons eu envie de faire une petite place à ce qui était pour l'heure, à ce qui est pour l'heure un petit spectacle, 35 minutes environ, que nous avons eu l'opportunité de voir à Montpellier, au Printemps des Comédiens. Il faut bien dire que quand je vois le nom de Guillaume Vincent quelque part sur un programme, mon attention est grande, puisque c'est un auteur et un metteur en scène qui fait des spectacles, je trouve, d'une grande inventivité, précision et souvent aussi d'une grande, c'est pas un critère, mais d'une grande originalité. Et avant de parler de Mira, titre de ce court fragment de spectacle dont on va parler, je précise pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu que se joue à l'heure actuelle et jusqu'à dimanche prochain au Théâtre du Rond-Point à Paris, rendez-vous Gare de l'Est du même Guillaume Vincent. Un travail d'écriture très fin, une mise en scène d'une très grande sobriété avec une extraordinaire Émilie Incerti Formantini qui endosse ici le personnage d'une bipolaire qui se raconte sans phare, sans concession, très simplement. C'est un spectacle dont on avait parlé à sa création qui se joue jusque dimanche prochain au Théâtre du Rond-Point à Paris. Si vous pouvez, allez-y. Fin de la parenthèse. On l'a donc découvert, 35 minutes d'un projet que Guillaume Vincent annonce comme très vaste, qu'on pourra découvrir en mois d'avril prochain à l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Le spectacle s'appellera Songes et Métamorphoses, un texte écrit par Guillaume Vincent, inspiré des Métamorphoses d'Ovide et du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et de Britten. Et on a donc vu Mira, M-Y-2-R-H-A, c'est le nom de la fille du roi de Chypre, Cinéras, dont on va vite s'apercevoir en fait qu'il s'agit plutôt de Mirabelle, dite Mira, adolescente d'aujourd'hui qui travaille avec ses camarades sur Ovide avec leur prof de français. Je m'arrête là pour cette longue introduction, mais je donne tout de suite la parole à Anna Sigalevitch.
Oui, c'est sacrément alléchant cette petite forme qui en effet sera précédée d'une autre partie du spectacle avec des enfants apparemment et qui suivra avec des comédiens plus chevronnés. Voilà. Donc ça commencera par des enfants. Là, ce sont des tout jeunes.
Des sorties d'école.
Voilà,
hein.
Sorties, ou peut-être même encore, je ne sais pas trop, ou sorties. Il y a quand même Gérard Watkins qui
joue le prof de français. Voilà, donc logiquement, il est plus âgé.
Qui est un peu plus chevronné, etc. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive, je trouve, avec cette toute petite forme, à mêler l'épique et le dramatique, et l'archaïque et le contemporain.
C'est-à-dire et la comédie.
Oui, absolument. Absolument. Il y a tout ça. C'est-à-dire que grâce à ce sens de la rupture, du décalage, c'est étonnant tout ce qu'il arrive à faire et à quel point ça fait mouche. C'est-à-dire qu'il ose un mélange de genres qui pourrait être très casse-gueule, enfin, franchement, qu'il est. Et c'est cette prise de risque qui fait tout l'intérêt et je trouve la beauté de son théâtre. Parce que c'est quelqu'un, Guillaume Vincent, qui a une très grande acuité et qui a une très grande sensibilité. D'ailleurs, j'ai le sentiment qu'il met en scène ce qu'il aime et ce qui le touche, lui. Mmh. Et en fait, c'est beau quand les gens font ça parce que du coup, ils donnent d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'on a envie de voir au théâtre, en fait. C'est, voilà, c'est ce que les gens intimement ont envie de faire. Et je trouve qu'il saisit des choses très juste, il a un sens du détail et un goût pour ça qui me touche beaucoup. Les costumes, par exemple, c'est pas grand chose les costumes, c'est pas spécialement des beaux costumes, mais c'est des costumes qui sont d'une justesse totale. Justement, la petite Mira, qui est incarnée par Elsa Agnès, il y a un moment donné où elle est seule en scène, assise sur une chaise, et elle a un petit pull marron à col roulé, elle a un petit caleçon. Franchement, ça n'a rien de d'éclatant, mais c'est d'une justesse incroyable. Et du coup, c'est la façon de la rendre le plus touchante à ce moment-là. Il a une façon de mettre en scène les acteurs qui est tout à fait unique, parce que il les magnifie, il en fait des héros et des héroïnes, mais en les mettant à nu. C'est-à-dire, ce qu'ils portent au nu, c'est leur sensibilité, leur fragilité, ce qui dégage eux, et c'est à la fois hyper vivant et hyper vibrant.
Donc, c'est beau, hein, ce voilà. qu'on vous dit, Anna. Je souscris pleinement, Philippe Chevillé.
Je ne sais plus quoi dire après ça, mais je suis bon. Moi, j'ai bien aimé ces 40 minutes de spectacle qui sont. J'ai bien aimé cette insolence par rapport justement au théâtre, par rapport au mythe, ce mélange de comédie, de gravité. Et de gravité, puisqu'on y évoque l'inceste et de façon très crue en même temps, puisqu'elle est reprise dans le monde d'aujourd'hui, dans une situation d'aujourd'hui. Et en même temps, c'est fait avec beaucoup d'humour, avec de l'humour adolescent, qui est, on sent que ça fait pas, on sent qu'il a pas cherché à faire jeune. Et donc ça, c'est très réussi. Les comédiens sont frais, ils sont amusants, ils ont un vrai caractère chacun. Je pense que, alors, d'après ce que j'ai compris, c'est ces quatre petits bouts de métamorphose, de songe, il va être obligé de ramasser un petit peu tout ça. J'espère qu'il va pas perdre de cette fraîcheur, parce qu'il va être obligé de condenser un peu, il y a des petits défauts dans ce spectacle. J'espère qu'il va pas perdre la fraîcheur quand il va faire l'ensemble, mais pour l'instant ça me paraît très bien parti, voilà.
Ah oui, très bien parti, pour faire monter le désir encore de cette création à venir. C'est vrai que Guillaume Vincent, il a quand même une singularité joyeuse et grave en même temps, ce qui est quand même une sorte de quelque chose de très précieux, parce que c'est profond. Il y a ce sens du décalage, toujours un pas de côté, une écriture extrêmement précise, alors même que ça a l'air d'être improvisé, mais on voit bien que tout ça est évidemment à la virgule près. Moi, je suis très admiratif, voilà, pour le dire simplement, du travail qu'il fait, qu'il nous a montré là, en l'occurrence, sur les changements de ton, parce qu'effectivement, on a, en 40 minutes, au moins trois tonalités extrêmement différentes, mais qui s'enchaînent avec une fluidité, alors, qui nous interroge, qui nous fait rire, qui nous glace les sangs quand même. Enfin, moi, voilà, j'ai envie d'en voir plus. Donc, on sera là, on l'espère, pour découvrir la suite. Là, voilà, on avait juste envie de signaler Mira, qui était cette forme courte présentée au Printemps des Comédiens. Oui, c'était bien à Montpellier, hein, qu'on a vu ça, que je confonds pas.
Je peux dire les noms
oui.
des...
Ah, voilà.
Oui, parce qu'ils sont tous ce que bien, je voulais faire. Vous avez raison.
Ouais. Allez-y.
Elsa Agnès, Elsa Gedge, Hector Manuel et Makita Samba.
Et Gérard Watkins, oui. Le prof.
Voilà,
voilà. Grand coup de chapeau à Guillaume Vincent. Dans quelques minutes, retour à Lyon, Nuit de Fourvière, pour parler de Monsieur Armand dit Garincha, de Serge Valetti, mise en scène Patrick Pinault, avec Eric Elmosnino. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, dont on peut retrouver l'actualité sur franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous?
Camélia Jordana, très heureux de passer cette semaine avec vous. Ça fait longtemps que j'en avais envie, donc voilà, ce moment est arrivé.
Merci de me recevoir.
Pour parler de ce que vous aimez, pour cet autoportrait par vos goûts. Et on va commencer, nous, lundi soir, par le spectacle vivant, donc. Théâtre, opéra, danse, concert aussi. C'est vrai qu'on a eu la chance de vous voir dans un très beau spectacle signé Guillaume Vincent il y a quelques mois au Bœuf du Nord. Et puis Guillaume Vincent aussi qui était pas loin pendant votre tournée aussi, qui l'a accompagné de sa patte artistique qu'on aime beaucoup ici. Monter sur scène, ça provoque quoi chez vous?
Plein de choses. Là, ça commence à me manquer beaucoup. on a fini la tournée du deuxième album le 18 décembre 2015. Et puis, bon, ce qui est chouette, c'est que j'ai quand même beaucoup d'amis musiciens et qu'on adore faire des projets ensemble ou simplement faire de la musique ensemble de manière un peu légère. Donc, je me retrouve à monter sur scène avec les copains assez régulièrement de manière imprévue. Donc, c'est très agréable. Mais je sais pas ce que ça représente. Ça représente vraiment beaucoup de choses. C'est un endroit où je peux... oublier un peu tous les complexes et les tabous et tout ça, Ouais, ça me manque beaucoup. Et en même temps, quand ça fait un moment que j'y suis, j'ai hâte de pouvoir passer à autre chose parce que du coup, ça demande beaucoup de concentration et de renouveau surtout. Donc voilà, moi, c'est vrai qu'après une tournée, j'ai hâte de... En fait, j'aimerais que ça ne s'arrête jamais, mais en même temps, on est bien obligé parce qu'il y a un moment où on se lasse aussi du spectacle qu'on joue parce qu'on ne peut pas le faire évoluer toute une vie. Enfin, on pourrait, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà.
Le projet suivant, c'est ce qui est important. Et vous, comme spectatrice, est-ce que vous allez régulièrement au théâtre, à l'opéra, à la danse, les concerts, j'imagine, on en reparlera, mais est-ce que vous êtes spectatrice, vous?
Oui, assez. Malheureusement, ces dernières semaines, beaucoup moins, parce que je travaille beaucoup, 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 beaucoup. mais oui, c'est quelque chose qui m'est nécessaire, je crois. J'en ai besoin, déjà parce que j'adore ça et que ça me fait un bien fou. Ça me coupe du monde, ça m'élève, je crois, et ça me... Enfin, spirituellement, j'entends pas du tout. voilà, ça m'apaise, je crois, humainement. Et puis après, indépendamment de ça, ça me nourrit aussi artistiquement. Et donc oui, j'en ai besoin pour, même moi, pour travailler, quoi, tout simplement. Ça fait partie de mon boulot, je pense.
Il y a des spectacles qui ont été pour vous plus marquants que d'autres, des souvenirs qui ont été importants, de rencontres aussi, de metteurs en scène, de comédiens, comédiennes aussi.
Oui, oui, oui. Bah, Guillaume Vincent, justement, d'ailleurs, ça a été mon énorme claque. Théâtral, quand j'ai vu La Nuit tombe au Bouffe du Nord, c'était incroyable, c'était la première fois que j'avais vraiment peur au théâtre, c'était dingue, alors que c'est pas du tout un...
Ça fait peur aussi par moments. Parce que c'est un film d'épouvante aussi.
Oui, voilà, mais c'est pas l'angle principal.
C'est
l'un des nombreux angles, des nombreux axes sur lesquels travaille Guillaume dans ce spectacle, et ouais, c'était la première fois que j'étais terrifiée dans une salle de spectacle. La mise en scène est divine et la scéno de James est magnifique aussi. Enfin, c'était voilà, une énorme tarte. Et puis après, dans un genre complètement différent, il y a eu le Coltès, là, il y a peu de temps, avec Anne Alvaro
et Audrey Bonnet. Aussi au Bouffe du Nord.
Au Bouffe aussi, que j'ai adoré ça. Ça m'a fait un bien. Ça faisait un moment que je n'étais pas allée au théâtre quand je suis allée voir ça et j'étais contente d'y retourner pour voir ça et me prendre quelque chose comme ça dans la figure. D'autant que pour cette mise en scène-là, enfin pour la version que moi j'ai vue, parce que je crois savoir qu'elles ont des rendez-vous dans la pièce, ces deux comédiennes, mais que c'est quand même assez libre dans l'espace et tout ça. En tout cas, l'intro, voilà, elle commence dans les gradins, à l'étage, au premier balcon. Et puis le public est lui sur scène, en plus dans cette scène ronde comme ça qui a au Bouffe. Donc on est entouré des bancs qui eux-mêmes sont recouverts d'une espèce de tulle noire, très sexy, en même temps assez macabre. Bon, et puis il y a un moment où ça y est, ça switch et hop, on devient spectateur et on ne sait pas trop comment on se retrouve là. Et avec ces deux voix, en plus, ils ont beaucoup travaillé avec le
casque. Chaque spectateur avait un casque, avec une musique qui était mixée en direct.
Ouais. Et en fait, on m'avait expliqué qu'à la base, les premières représentations avaient même été faites... Enfin, ça commençait dans la rue, carrément devant les Bouffes, parce qu'il y a une espèce de petit air plein comme ça, sous le métro de la Chapelle, sous le métro aérien. Donc, elle commençait ça dans la rue, et puis après, ils rentraient, tout ça. Puis, ils ont fait une fois, deux fois, puis ils ont arrêté avec l'état d'urgence, tout ça. Et en fait, Anne Alvaro m'expliquait que c'était même un spectacle qui avait été créé dans une espèce de enfin, pas dans une espèce de, d'ailleurs, dans un mall, quoi.
Commercial, dans un commercial, voilà, à la Part-Dieu à Lyon.
Exactement. Et donc, je trouvais ça fantastique, quoi. Mais donc, tout le travail de spatialisation sonore et tout ça, c'était fait dans un mall, ce qui est quand même complètement différent. Mais du coup, ça rendait quelque chose dans les Bouffes qui était super intéressant et très, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, même au théâtre de manière générale et même aux Bouffes.
Et vous avez envie, vous, Camilla Jordana, et le temps, c'est prévu de retourner comme comédienne sur un plateau de théâtre?
Alors, j'adorerais. le problème, on retombe dessus, hein, c'est le temps. Je suis contente parce qu'on me propose des projets et ça me touche déjà énormément parce que généralement, en plus, ce sont des gens dont le travail m'intéresse beaucoup et des gens qui m'intéressent beaucoup, tout court d'ailleurs, premièrement. Et puis ensuite... c'est des projets aussi qui m'attirent beaucoup. Donc oui, dans l'absolu, oui. Quand, je ne sais pas. Et bon, comment, encore moins.
On attendra.
Voilà.
Et nous poursuivrons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant. Et puis nous allons parler football à présent. Enfin, rassurez-vous, c'est toujours 0-0 entre la Slovaquie et l'Angleterre. Vous pouvez rester sur France Culture, écouter la dispute. Un autre spectacle présenté à Lyon dans le Festival des Nuits de Fourvière, Monsieur Armand dit Garincha, de Serge Valetti. Mise en scène de Patrick Pinault avec Eric Elmosnino, lui aussi seul en scène pour ce spectacle qui est une recréation et qui restait mythique hein, pour ses spectateurs de 2001. Au théâtre du Petit Odéon, c'était bien à l'Odéon, mais c'était la petite salle, une petite salle. La genèse de cette création, c'est un article lu dans le journal L'Équipe par Eric Elmosnino, qui en est un lecteur absolument quotidien. Un petit article consacré à l'une des légendes du football brésilien, Garincha, et puis l'envie de consacrer un spectacle à ce joueur, un spectacle qui serait mis en scène par Patrick Pinault. Et puis les deux hommes se sont dit que c'est quand même mieux avec un texte. Et ils ont donc demandé à Serge Valetti, qui croisera donc l'histoire du footballeur brésilien avec celle d'un de ses oncles, apparemment lui aussi footballeur, ainsi est né Monsieur Armand dit Garincha. Il en est encore sous la fiction, la légende, les empilements de légendes familiales réelles, moins réelles. Philippe Chevillier, pour commencer ce spectacle.
Ben oui, parce que ce qui a fasciné, je crois, Elmosnino au départ, c'est que dans cette petite brève de L'Équipe, on racontait la tragédie aussi de ce joueur moins connu quand même que Pelé, même par les fans, hein, et qui avait les jambes arquées, et qui en fait était un ailier droit absolument extraordinaire, et qui a fini sa carrière lamentablement. Enfin, il est devenu alcoolique assez rapidement, il est mort à 49 ans, et avant de mourir, il a eu envie de prendre une camionnette avec un copain pour aller taper dans la balle. Donc c'est ça qui avait un peu ému. Et en fait, Valetti, en croisant l'histoire de cet oncle joueur marseillais et l'histoire de Garincha, nous fait démarrer à la fin de la vie aussi de Monsieur Armand. Et donc, on ne sait plus très bien. Au départ, d'ailleurs, on peut se demander si c'est pas Garincha qu'on voit. Donc, il y a cette ambiguïté dès le départ. Et en fait, en racontant son histoire assez extravagante, que c'est une belle fable marseillaise, puisque Monsieur
avec
Armand
beaucoup d'exagération
prétend que c'est grâce à lui qu'il a sauvé la carrière. Alors, on ne racontera pas l'histoire, mais prétend que par un concours de circonstances, genre battement d'aile du papillon, il a sauvé la carrière
plusieurs fois.
Plusieurs fois et la vie,
de
même la vie de Garincha. Et petit à petit, il y a ce mélange qui fait qu'on a on est dans l'humour, on est en même temps dans la vieillesse, dans les souvenirs un peu qui s'estompent, et cet humour fait la place à une espèce de gravité, puis une espèce de poésie. Et moi, il y a un moment que j'aime beaucoup quand on voit Garincha sur l'écran, au fond de la scène, et qu'il y a une espèce de dialogue. Lorsque Valetti et lorsque Elmosnino, du coup, dialogue avec le fantôme de Garincha, ça devient très beau et ça prouve que le foot, ça peut être aussi du théâtre et de la poésie.
Mais justement, ce moment de vidéo, c'est à peine, hein. C'est vraiment, il faut bien le dire, on peut craindre ou pas d'ailleurs qu'à ce moment-là, on en voit trop. Ce sont vraiment quelques images. D'ailleurs, les retransmissions des matchs à la fin des années 50 n'étaient pas si fréquentes pour qu'on ait beaucoup de traces. Et donc, ils n'insistent pas. C'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est vraiment un petit éclat, une petite poussière de cette étoile qui était une étoile du football mondial. Anna Segalovic.
Oui, c'est comme un éclat et une poussière, et c'est aussi un moment extraordinaire parce que quand il revit donc ce but marqué par Garincha, Eric Elmosnino là s'identifie à l'adversaire, donc tout d'un coup.
Il est enfin, dans la tête du défenseur.
Mais il joue avec Garincha. Il joue ce match qu'il n'a finalement jamais joué, puisqu'il dit qu'il s'est sacrifié pour que Garincha puisse avoir la carrière qu'il a eue. Et c'est étonnant comme on voit à quel point Eric Elmosnino est sur le terrain. On voit tout. C'est fabuleux. C'est vrai que ce que vous disiez, cet éclat, c'est ça le spectacle. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre où on était.
Qui parle ?
Mais vraiment, pendant un moment, la frontière entre le vrai, le faux, la réalité, la fiction, l'identification et l'incarnation, tout ça est assez brumeux. Et c'est ça qui est intéressant et qui est beau dans le spectacle. C'est cette ambiguïté dont vous parliez, Philippe. Ça n'est pas clair. Et ce manque de clarté, en fait, il symbolise, je pense, une mémoire. Une mémoire usée par une vie pas facile, une mémoire qui est abîmée par l'alcool, qui est devenue fragmentaire et chaotique, et que sa vie se mélange en fait à celle de son idole. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus qui est qui, et ça n'a plus d'importance, et on s'en fiche. Voilà, c'est ça que je trouve assez touchant dans le spectacle, et c'est touchant pourquoi ? Bah bien sûr grâce grâce à la grâce, non pardon, grâce à Eric Elmosino et à son talent, qui est un grand acteur. On le sait quand on va en tête depuis un petit moment, parce que c'est vrai que moi je suis un peu dubitative face à certains de ses choix, même si on peut comprendre certains aspects, mais en tout cas artistiquement je trouve que c'est un peu, je trouve que c'est un peu dommage, voilà, certains spectacles dans... ou film qu'il a fait récemment, et là on le voit dans tout ce qu'il a de merveilleux, enfin je veux dire, pour qu'il a vu jouer Platonov, enfin avec Alain Françon, c'était exceptionnel, quoi. Et là il est là, donc désabusé, cynique, plein d'ironie, mais c'est une ironie qui est magnifique, parce que c'est une ironie qui est en fait l'élégance de la pudeur. C'est une ironie qui, c'est l'ironie de des gens qui sont complètement écorchés vifs et qui sont extrêmement fragiles, et donc du coup qui se protègent comme ça, qui masquent leur hypersensibilité comme ça, et quand tout à coup il est submergé par l'émotion et que ça sort, et ben ça vous terrasse, ça vous met par terre, et c'est plus beau que tout, quoi. Donc
ah oui, non mais voilà. Je partage complètement. C'est un grand grand plaisir de retrouver Eric Elmosino sur scène dans un bon texte bien mise en scène, parce que voilà, c'est pas grand chose, hein, ce spectacle, c'est un décor très simple. Bon, il y a un passage coulisses avec vidéo sur grand écran, et puis voilà, un espace domestique on ne peut plus simple, un petit canapé, une chaise, deux accessoires, mais comme c'est un très grand comédien, il a cette forme de, alors une virtuosité très particulière, très impressionnante, parce que apparemment sans effet, comme si c'était lui qui parlait au présent, et pas un personnage. Il a des hésitations, il a des répétitions, il a des obsessions, mais ça c'est le texte aussi. Est-ce que quelqu'un fume dans la salle? Des drôleries là qui viennent vraiment de l'écriture de Serge Valetti, mais qui sont véhiculées évidemment par l'interprète Eric Elmosino, qui sait lui aussi passer d'un registre à un autre avec, voilà, comme un prestidigitateur, sans qu'on le voit venir, hein, parce qu'on passe à la fois d'un truc très drôle, là, une digression invraisemblable des histoires marseillaises, comme il y en a quand même beaucoup. Et il passe avec une finesse, une subtilité, pour faire vivre des moments très différents. Vous parlez de ce passage sur la question du dribble de Garrincha, qui passait donc toujours à droite, hein, raconte le défenseur, et qui est là en face de lui. Donc, ça, c'est absolument jouissif. Mais il y a ce texte de Valetti. Moi, c'est vraiment un auteur que j'aime bien, qu'on voit beaucoup jouer. Pas toujours très bien. Donc là, quand on a un bon metteur en scène avec un bon comédien sur un bon texte de Valetti, Valetti, ce qui est beau, c'est que sa mythologie personnelle, familiale, épouse complètement celle de Garrincha, et que donc, voilà, il y a un mix qui se fait qui est très joyeux, parce que c'est ça chez Valetti, la superbe est toujours proche de la déchéance. Mm-hmm. Et c'est ça avec Garrincha, c'est ça avec Monsieur Armand, c'est ça aussi avec Eric Mosnino. Enfin, on est encore dans un empilement de fiction, de vérité, encore une fois. Philippe Chevillier?
Oui, et ce que je trouve très beau, alors avec ce côté populaire et ce ton qui peut prendre un peu de footballeur, vieux supporter, etc., qui retrouve son âme d'enfant, je pense que pour tous les théâtreux qui détestent le foot, peut-être parce qu'ils ne savent pas ce que ça a de tragique et de comique, le football, et ce que ça peut avoir de petit, qu'on retrouve une poésie du football. Hein, le foot peut être une tragédie, ça peut être une comédie quand les footballeurs suisses perdent leur maillot, par exemple. Et voir comment c'est traité, que ça peut devenir un objet de théâtre et un objet en plus poétique, où il y a cette nostalgie pour le football, mais aussi pour le Brésil. Il y a ce moment où il chante une bossa nova.
Ah oui,
qui est très émouvant. Et il y a beaucoup de nostalgie dans ce spectacle et qui, pour moi, me ramène à la poésie du football.
Voilà. Parce qu'on finit en larmes quand même. Hein. Anna Segalevich, je voulais
dire. Oui, mais c'est
un
vrai que la nostalgie est très importante. Il y a des personnages qui sont complètement surannés dans notre temps, et c'est touchant de les voir s'incarner. Cette copine qui est rentrée au couvent, il l'appelle, viens, on t'emmène à Paris, tout ça. Enfin, il y a plein de personnages comme ça qui sont incarnés par lui et qui sont pleins de saveur et de tendresse aussi.
Dernier mot, Philippe Chevillier,
oui,
sur ce spectacle.
C'était pour parler du lieu.
Oui, hein, vous avez raison.
Qui est très beau.
Le collège Jean Moulin,
où dans le préau a été construit un petit théâtre en bois.
Et par les équipes des Nuits de Fourvière.
Et vraiment, qui est un nouveau lieu et qui donne une proximité extraordinaire avec le comédien. Et voilà, j'espère qu'on y verra d'autres choses dans cet endroit, parce que c'est vraiment un lieu assez magique.
Oui, c'est un nouveau lieu de ce très grand festival qu'est les Nuits de Fourvière. Et donc, on espère que ça sera pérennisé. Si c'est le cas, il y aura un gradin qui sera refait pour l'an prochain. Pour l'heure, on peut voir dans ce préau, sous ce préau du collège Jean Moulin, il vaut mieux des préaux, c'est ancien avec la météo que nous avons. Monsieur Armand dit Garincha de Serge Valetti, dans une mise en scène de Patrick Pineau, c'est une recréation, donc avec Eric Elmosnino, c'est jusqu'au 30 juin dans le cadre des Nuits de Fourvière à Lyon.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et avant de conclure cette émission par un coup de fil passé à Romaric Daurier, le jeu de la dispute en commençant par un retour sur le jeu de vendredi soir, Antoine Guillot.
Vendredi soir, vous avez gagné des invitations pour l'exposition Picasso au musée Soulages, c'est jusqu'au 25 septembre à Rodez. Il fallait nous dire quels sont les auteurs des photographies qui sont présentées entre deux toiles de Picasso. Eh bien, il s'agit de Michel Sima et David Douglas Duncan.
À ce soir, à gagner, j'ai pas pu le dire tout à l'heure, je vais essayer là maintenant, des invitations pour le spectacle Vertical Influence par la compagnie Le Patin Libre. Des places à gagner pour vendredi 24 juin à 19h45 dans la patinoire Vegapolis Odysseum à Montpellier. Cette fois, ce sera dans le cadre du festival Montpellier Danse. Je suis arrivé jusqu'au bout. Quelle est donc la question, Antoine ?
Philippe Chevillier connaît déjà la réponse, mais je la pose quand même. Il ne faudra pas qu'il nous la donne. Que signifient en patinage artistique les termes flip ou lutz ?
Non, il ne va pas répondre.
Je me retiens.
Nos auditeurs qui vont pouvoir répondre en nous envoyant un courriel à l'adresse suivante. Et sur le courriel, évidemment, ils nous donnent la bonne réponse et leurs coordonnées postales. Il faut qu'ils nous écrivent à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute. Et ce soir, j'appelle Romaric Daurier, le directeur du Phoenix, scène nationale de Valenciennes, directeur depuis 2009, pour nous présenter la nouvelle prochaine saison avec un nouveau pas franchi, puisque votre théâtre, Romaric Daurier, va devenir pôle européen de la création. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ça signifie en fait de pouvoir accompagner des artistes vers l'international. On a eu l'expérience depuis 2009 d'accompagner deux très jeunes équipes émergentes, l'Amicale de production, Antoine Deforte et Alory Goerger, et puis Julien Gosselin. Et en fait, on s'est rendu compte que les compagnies indépendantes avaient vraiment besoin d'un lieu pour travailler à l'abri et d'être coucounées, protégées, accompagnées. Et sur la base de cette expérience-là, on a proposé en quelque sorte de développer ce modèle d'accompagnement et puis d'accompagner à la fois ces artistes associés et puis de faire le travail aussi auprès de plus jeunes artistes qui commencent.
Alors développement, envergure encore plus grande et parallèlement vous faites face comme tant et trop d'autres à une baisse de subventions. Quelle est la situation à ce jour ?
Ah bah écoutez, pour nous, je pense que à la fois artistiquement, il y a une sorte de Nord-Pas-de-Calais touch, quelque chose qui s'est passé d'assez miraculeux dans la région. Je pense depuis les années 2000, depuis tout l'investissement qu'il y a eu dans la culture, le Frénois, l'école de l'EPSA, du Théâtre du Nord, il y a eu vraiment une jeune génération qui a émergé, et puis le grand soulagement aussi des dernières élections régionales où du coup le budget de la culture va augmenter de près de 30%. Pour la région avec l'idée d'un soutien à la création, l'idée d'accompagner les équipes artistiques et puis la culture aussi auprès des populations les plus isolées, quoi. Donc on est plutôt un territoire qui mise et qui continue de miser sur la culture et on sent qu'on est un petit peu une exception à l'échelle nationale et c'est peut-être ça qui est inquiétant en fait.
Ouais, il faudrait que l'exception devienne la règle, contrairement à l'expression. Mais pour parler de création, justement, l'un de vos artistes associés, vous l'avez cité, Julien Gosselin, vient de créer 2666, d'après Roberto Bolaño, chez vous, samedi dernier. Il y a une prochaine date samedi prochain, mais avant le festival d'Avignon, et puis bien sûr une grande tournée à suivre. Mais Julien Gosselin, il sera quand même là, aussi, la saison prochaine, au Phoenix, avec un monologue qu'il a dirigé, c'est-à-dire très grande forme et une forme plus restreinte.
Oui, avec le père de Stéphanie Chailloux, un magnifique texte qui, à la fois entre la fiction et le documentaire, puisque ça raconte l'histoire d'un père de famille qui perd tous ses moyens avec la politique agricole commune et qui liquide sa ferme. Et c'est une sorte de portrait assez singulier, à la fois du très intime et du très européen. Et c'est une jeune auteure absolument remarquable qui est à suivre. Et Julien Gosselin l'a traité de manière très radical, avec une mise en scène magnifique et l'interprétation de Laurent Sauvage qui joue ce père de famille qui est lui aussi remarquable.
Et puis le travail des autres artistes associés, bien sûr, on peut en évoquer d'ailleurs quelques-uns, mais il y a une très riche saison à venir pour le Phoenix, scène nationale de Valenciennes. Comment est-ce que vous dosez le cocktail de la programmation Romaric Daurier entre justement des découvertes, des formes plus classiques? Comment est-ce qu'on s'adapte aussi aux propositions qu'on a envie de faire à un public évidemment le plus vaste possible?
C'est vrai qu'on fait un métier étrange quand j'essaye de le raconter auprès d'étudiants, par exemple. Je leur dis que d'une main, on tient un rapport au territoire et puis de l'autre, un rapport à l'histoire des arts. Et je crois que la programmation, on l'élabore comme ça, à la fois exigeante et à la fois ouverte au plus grand nombre. Et puis on a ce territoire ici du Valenciennois, qui est un territoire très contrasté socialement. Il y a 350 000 habitants, dont 40 000 qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc vous arriviez avec Molière ou Pascal Rambert ou Julien Gosselin, ils connaissent ni l'un ni l'autre. Donc il y a tout un travail à faire. Alors, on a fait le pari ici à Valenciennes de beaucoup miser sur la pratique, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on fait des échauffements de spectateurs, c'est-à-dire qu'avant chaque spectacle de théâtre, pendant une heure, les gens se mettent en jogging et puis pratiquent soit le théâtre, soit le chant, soit la danse pour se mettre dans le spectacle et passer par une approche beaucoup plus sensitive, sensorielle. Parce que je crois que c'est ça qui fait la différence aussi avec ce qu'on appelle les industries culturelles, c'est que quand même le spectacle vivant, on met le corps en jeu et qu'il y a quelque chose de singulier, de l'ordre de l'expérience qu'à mettre en valeur.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes raisons d'aller au Phoenix, qui est vraiment une scène nationale qui compte, et beaucoup grâce à vous, parce que ça se dit beaucoup dans ce milieu théâtral, et à raison que vous dirigez fort bellement cette maison. Pour découvrir bien sûr toute la saison, on se rend sur le site internet du Phoenix, ou celui de la dispute, on renvoie vers le lien du Phoenix, scène nationale de Valenciennes, qui promet encore de riches heures à ses spectatrices et spectateurs. Merci beaucoup Romaric Daurier. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anna Segalevitch, Philippe Chevillier et Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont disponibles sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez aussi vous abonner au podcast de cette émission. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Séam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Ledio qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guy Lamège, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Charlotte Garçon et Julien Gester. À notre affiche, Love and Friendship de Whit Stillman, Panic à Needle Park de Jerry Schanzberg en coffret DVD Ultra Collector chez Carlotta. Nous évoquerons aussi plus rapidement le mélodrame français ainsi que la cinémathèque française jusqu'au 31 juillet. Bella Donna de Eiichi Yamamoto qui ressort en version restaurée. Puis autre sortie DVD, c'est Bad Boy Bubby de Rolf De Heer. On retrouvera bien sûr Antoine Guillot pour une revue de presse culturelle. Les choix de la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, invitée de la dispute cette semaine. Il y aura un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.